que ce sont vos frères qu'Allah a mis sous votre responsabilité. C'est pas que vous les possédez, qui sont des objets pour vous. Allah les a mis sous votre responsabilité, sous vos mains, tahta aydikum. Le Prophète les a qualifiés de vos frères, ikhwanukum. Et le Prophète a dit au maître propriétaire que ne leur donnez pas un travail qui est au-dessus de leur compétence ou de leur force. Il ne faut pas donner à ces esclaves un travail qui sera trop difficile à accomplir seul. Regardez le nombre de droits que le Prophète a enseigné aux sahaba, propriétaires d'esclaves, et ça a changé la position de l'esclave jusqu'à lui donner une position enviable pour le travailleur, pour le salarié moyen à notre époque. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, malgré le fait que leurs conditions se soient améliorées d'une façon inimaginable, la condition de l'esclave, le Prophète a fait énormément tadrib. Il a incité et insisté maintes et maintes fois auprès des sahaba pour qu'il affranchisse les esclaves. D'accord ? On citera quelques hadiths. Et qui a montré l'exemple ? Abu Bakr al-Siddiq, qui voyait Bilal, qui était persécuté par ses maîtres. Abu Bakr a acheté, a pris fort, Hazrat Bilal pour le libérer immédiatement. Et le père d'Abu Bakr, qui s'appelait Abu Quhafa, il ne comprenait pas, parce qu'il s'est converti très tard, à l'âge de 92 ans, si je ne me trompe pas. Il disait à son fils, mais pourquoi tu achètes des esclaves, des vieux, des faibles, des femmes et des enfants pour les libérer. Achète des hommes forts qui travailleront pour toi. Mais Abu Bakr, il savait c'était quoi son objectif. Les libérer pour Allah. Celui qui a montré l'exemple dans l'affranchissement massif des esclaves, c'était Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu ta'ala. Et dans un hadith de Amr ibn Abasa, il dit, Fassam a dit, وَمَنْ اِعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمًا كَانَ فِدْيَتُهُ مِنْ جَهَنَّمْ. Celui qui donc libère un esclave qui a iman, c'est une fidya pour lui contre le jahannam, c'est sa libération du feu de l'enfer. Rapportez pas Imam Ahmed. Dans un hadith, on va être un peu plus bref, le Prophète a dit que n'importe quel musulman qui libère quelqu'un qui a iman, Allah Ta'ala fera en sorte que pour chaque membre de cette personne, ce sera sa libération du feu. Et là, le hadith précise, عظم من عظامي, chaque os, chaque partie du corps de cet esclave affranchi sera une partie du corps de cette personne qui sera protégée du feu de l'enfer. Dans un riwayat d'Abu Huraira, il dit حتى إنه لا يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل, etc. etc. Par la main de l'esclave affranchi, votre main sera protégée de l'enfer. Par son pied, votre pied, etc. etc. Pourquoi autant de précision? On aurait pu dire qu'il vous délivre de l'enfer. Pourquoi autant de précisions? C'est des précisions qui ont pour objectif de motiver les propriétaires, tarif, le maximum de tarif d'encouragement possible aux propriétaires pour affranchir ces hommes, pour qu'ils redeviennent libres. Ça c'est les tarifs, et on finira avec un dernier hadith dans lequel Ali ibn al-Hussein, si je ne me trompe pas, descendant, le fils de Hussein, ibn Ali, dit que il avait entendu ce hadith en ce sens et a demandé au narrateur, est-ce que tu l'as entendu d'Abu Huraira? Il dit qu'Abu Huraira m'a rapporté tel. Je dis, est-ce que tu l'as entendu? Il dit, oui, je t'assure que je l'ai entendu. Et là, il appelle quelqu'un, un de ses états, il dit, appelle telle personne. Et là, la personne vient et dit, فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ. Il dit que je te libère tout de suite pour Allah. Je le fais pour Allah. Rapporté par Imam Ahmad, Imam al-Nasa'i, Imam Muslim, Imam Abu Daoud. Regardez comment les musulmans n'hésitez pas à libérer massivement les esclaves lorsqu'ils savaient quelles étaient les récompenses et comment le prophète avait insisté sur ce principe. Et un bédouin, une fois, il vient voir le prophète, dit au prophète d'Allah, Ya Rasulallah, allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Enseigne-moi quelque chose qui me fera entrer au paradis. Et là, le prophète lui a donné quelques conseils et entre autres, a'tiqin nasama wa fakkir raqaba. Ça, c'est deux termes extrêmement intéressants. Et ce bédouin dit au prophète d'Allah, je ne peux même pas traduire parce que ce sont des termes inexistants en français. Elle dit que ces deux termes veulent dire la même chose, affranchir un esclave. Le prophète a dit non. Elle dit affranchir un esclave, c'est lorsque tu le fais de ta propre personne. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est encourager quelqu'un ou aider une personne à libérer un esclave. Soit en payant une partie de la somme, ou soit en conseillant quelqu'un, en faisant tarif. Même le fait d'aider une personne à obtenir sa liberté, c'est une grande action. Regardez comment l'islam a insisté sur la libération des esclaves. Comprenez maintenant que si vous entendez ou si vos enfants entendent un discours de la part de leur professeur d'école, ou vous lisez dans un magazine quelque chose qui parle de la condition de l'esclave dans l'islam, pourquoi Mahomet, prophète soi-disant de l'humanité, n'a pas aboli l'esclavage dès le premier jour de la religion, comprenez comment notre prophète sallam a agi de manière méthodique. Parce que l'esclavage était répandu à grande échelle chez les Arabes. Si du jour au lendemain, ces esclaves obtenaient leur liberté, c'était quoi les conséquences? Une couche de la population énorme qui se retrouve sans foyer, sans maison, sans situation. Notre prophète sallam a préféré que ces gens restent sous la coupe de ses maîtres, mais bien traités comme des insans, comme des êtres humains, et peu à peu, encouragement à libérer ces gens lorsqu'ils ont trouvé une situation. Ça, c'est tout de la hikmat. L'apport de l'islam dans la question de l'égalité et de la liberté, c'est unique dans l'histoire des civilisations, alors qu'à La Réunion même, ça date d'un siècle ou d'un siècle et demi, un 20 décembre, lorsque l'esclavage a pris totalement fin, et le prophète sallam nous a donné les notions pour arriver à cette fin il y a déjà 1500 années. On terminera avec, il est quelle heure, 30, encore 5 minutes, l'apport de notre religion de l'islam sur le point de la solidarité, sur la solidarité et la fraternité, ça il n'y a pas besoin de développer, parce que c'est clair. Il y aurait eu tellement d'exemples. Regardez la zakat. L'objectif de la zakat, c'est quoi? Le prophète m'a expliqué que la zakat est pris de l'argent de la personne, et le prophète m'a expliqué yuraddu ila fuqara'ihim. La zakat, là, ce n'est pas ce qu'on appelle une dîme. C'était quoi une dîme à l'époque, avec un i tréma, un i circonflexe? C'était un impôt qu'on prenait aux pauvres ou à la population et qu'on donnait au roi. Un impôt qui revenait au roi. Mais la zakat ne revient pas au imam ou alors au dirigeant du pays. La zakat est prise aux riches et distribuée aux pauvres et aux pauvres de la localité. Fuqara ihim, le terme ihim, c'est pour le pauvre à eux. Et cette zakat a pour but d'équilibrer la différence qu'il y a entre les différentes couches de la population. Analysez le nombre de hadiths innombrables sur la sadaqa. Et vous comprenez comment le Prophète sallam a agi sur le plan de la solidarité entre les gens. La zakat al-fitr, comme l'expliquait ce matin, hein, c'est quoi l'objectif? C'est que si moi je suis un homme, allez, je dirais pieux, j'ai une grande barbe, je suis pratiquant, mais mon voisin, il est musulman comme moi, il a jeûné le mois entier, mais le jour de l'Eid, il est tellement pauvre qu'il ne peut pas fêter l'Eid. Il ne peut pas donner à ses enfants des habits neufs, ni offrir à ses enfants un repas correct, ou alors donner à ses enfants un présent. Est-ce qu'on appelle ça un Eid? Est-ce que c'est correct? Ou alors c'est l'hypocrisie que moi je vis mon Eid avec autant de faste que j'ai d'habitude, et que mon voisin n'a pas les moyens? La zakat al-fitr, qu'on appelle fitra, c'est pour permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens de vivre une fête religieuse dans la dignité, comme nous on le fait. Ça c'est l'aspect social apporté par le... Et là, le qurbani, la distribution de viande aux pauvres, c'est le même but. Alors, avant dernier point, pour montrer l'apport de notre prophète sallam à cette humanité il y a 1500 années, la question épineuse de l'intégration, qui revient dans chaque mandat, l'intégration, l'intégration. Regardez comment le prophète sallam a travaillé, j'allais dire, le dossier de l'intégration. On est en l'an zéro de la Hijrat, il y a une couche de la population de Makkatul Mukarrama, des musulmans opprimés qui quittent en masse Makkah pour s'installer à Madina Munawwara. D'accord? Cette couche de population qui arrive, certains ont tout laissé à Makkah. Les Mekwar les ont obligés à laisser leurs biens. Donc ils arrivent à Madina sans argent, sans biens. Et c'est une population immigrante qui arrive et qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'endroit où habiter, ils vont devoir s'intégrer dans un système qui fonctionne depuis des générations et des générations, et ils n'ont pas les outils pour s'intégrer. Parce que la population mécoise, elle est commerçante. Et la population médinite, elle est agricultrice. Et le commerçant ne sait pas travailler la terre. Donc, ils n'ont pas déjà la qualification pour s'intégrer par eux-mêmes. Et le prophète sallam va instaurer une formule magique qui n'a plus jamais été utilisé par aucune civilisation ni aucun pays, ce qu'on appelle le mu'arrat, le pacte de fraternité. Toi, tu viens de Mecca, tu es le frère de cette personne qui vient de Madina. Il habite avec toi, tu partages tes biens, il mange avec toi et il travaille avec toi. Et les sahaba qui sont venus de Mecca, ils sont restés quelque temps avec les Ansar, et lorsqu'ils ont eu leur autonomie, ils ont pu fonder leur propre foyer, se marier, avoir une maison et démarrer une vie active. De cette manière, le Prophète sallam a fait en sorte qu'il n'y a jamais eu à Madina Munawwara un sans domicile fixe, ni une personne rejetée de la société. Il n'y avait pas comme ici, comme dans beaucoup de pays, les quartiers où il y a, je n'allais pas dire des termes que je regretterai, mais dans les quartiers où il y a des gens dont on ne veut pas. D'accord? Il n'y a jamais eu ça. Tout le monde vivait au cœur de la ville et tout le monde était intégré dans la vie religieuse et même dans la vie active. Il n'y a jamais eu une personne qui meurt de faim, sauf quand il y avait des périodes de famine où tout le monde était concerné, même notre Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman dormait dans la rue, jamais. Notre Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ouvert la masjid, un endroit qui s'appelait Ashabé Souffa, spécialement pour les pauvres. Entre autres, si je ne me trompe pas, Ibn Umar habitait Ashabé Souffa. Et après quelques temps, il s'est mis à travailler, et lorsqu'il a eu les moyens, il a quitté Ashabé Souffa, et il a pu vivre normalement. Comprenez que, en termes d'intégration, ce que notre prophète, alayhi salam, a apporté à l'humanité, c'est quelque chose d'unique. Il ne nous a pas apporté que la salat, que les restrictions, en termes alimentaires, en termes d'habillement, pour nous, pour nos femmes, autre chose. Notre prophète a apporté un trésor pour l'humanité. Comme on a dit, ces notions de liberté, d'égalité, de fraternité, c'était à la base de la société à Madina Munawwara. Et puis après ça, après le Daoula Umayya et Abbasiya, il y a eu un déclin vraiment. Et les autres populations, les autres civilisations n'ont pas puisé de ces notions, de ces valeurs. Et au XVIIIe siècle, en France, qui est vraiment un pays exceptionnel par rapport à ces idées, le siècle des Lumières, ils ont commencé à remettre en question la notion, la composition de la société. Pourquoi donc il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les tiers-états, ils n'ont pas fait des barrages filtrés comme il y a eu là juste avant Safarisha au niveau de Kabristan, c'est terrible, ils n'avaient pas les moyens de le faire, mais ils ont fait une révolution pour dire que qui a décrété que nous sommes inférieurs aux nobles, qui a décrété qu'il y a une noblesse, qui a dit que votre sang est bleu. Ils ont fait couler un peu de sang pour vérifier, et lorsque Louis XVI il a subi ce qu'il a subi, ils ont bien vu que son sang n'était pas bleu. Donc au siècle des Lumières, il y a eu une remise en question des castes dans la société. Et au XIXe siècle, et puis plus au début du XXe siècle, il y a eu ce courant humaniste, comme on a dit avec Sartre et Camus, hein, remettre l'homme au centre de l'humanité, que c'est l'homme, les valeurs humaines passent avant tous les autres intérêts. Bon, avec leur philosophie qui ne rejoint pas complètement, pas 100%, mais ces valeurs ont été travaillées. Mais très tard, ils ont vu le jour dans les autres sociétés, alors que notre prophète nous avait enseigné cela il y a 1500 années. Si on voulait analyser les apports de la civilisation islamique dans le domaine social, alors là, il aurait fallu un programme spécial, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Omar ibn Abdel Aziz, cet homme exceptionnel, merveilleux, dont on avait détaillé un peu la vie il y a 2 ans, ou 2 ans et demi, si même on l'a tenu dans la bayane de Jumaa, vous savez, ce que Coluche a fait, je dis son nom, parce que c'était un homme exceptionnel également, les Restos du Cœur, ça a touché le monde entier, ça. En Amérique, ils n'ont jamais su c'est quoi, ouvrir un endroit, donner à manger aux pauvres, ils ne savaient pas. Et après ça, il y a eu d'autres personnes qui ont fait pareil. Omar ibn Abdel Aziz, il l'avait déjà instauré sous son khilafat, il appelait ça Darus Ta'am. C'est quoi Darus Ta'am? C'était des endroits où on faisait à manger. N'importe qui voulait manger, vous venez vous asseoir, vous mangez, puis vous partez. Ne demandez pas d'argent. Donnez à manger aux gens, ce qu'on appelle, et ça c'est une notion importante, Ita'am ou Ta'am. Ça veut dire, vous voulez entrer au paradis, faites la salade alors que les gens dorment, et donnez à manger. Vous entrerez au paradis, bisalam, avec tranquillité, avec la paix. Des notions de base d'humanisme, des leçons d'humanisme données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mises en pratique par le petit-fils de Omar ibn al-Khattab qui s'appelait Omar ibn Abdel Aziz, qui était descendant, comme vient de dire, de Hazrat Omar. Également, Omar ibn Abdel Aziz avait instauré une allocation pour les familles dont le chef de famille était décédé. Par exemple, dans une famille, le papa ou le mari meurt, comment la femme et les enfants vont survivre? Il y a Allah dans le rosi, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est quoi le asbab? Alors Omar ibn al-Aziz, il donnait une allocation aux familles qui avaient perdu le pilier. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça. Même à notre époque, un homme qui meurt, bon, il y a pour les femmes veuves, il y a quelque chose. Mais imaginez dans le contexte, il y a, bon là ça fait pas 15 siècles, là ça fait 13 siècles de cela, il y a 1300 années, comment un homme peut apporter de telles réformes, de tels apports à la civilisation. Également, aujourd'hui nous avons des allocations pour les personnes malades, les maladies à longue durée, qu'on appelle les AES ou les AEH, Omar ibn al-Aziz, il donnait l'allocation aux personnes malades ou invalides qui ne pouvaient pas travailler. Ça remonte à 13 siècles de cela. Alors que dans certains pays, hein, ils n'ont même pas d'allocation, ils n'ont même pas de système. En France, alhamdoulilah, il y a, mais dans d'autres pays beaucoup plus grands, beaucoup plus riches que le nôtre, il n'y a pas ce surrodage dans le système de remboursement de la maladie, etc., etc. Omar ibn al-Aziz donnait l'allocation aux familles pour les enfants aussi. Mais ça, c'est exceptionnel, ça. On n'est pas en train de dire le plan de notre gouvernement 2008. Non, on parle d'il y a 1300 années. Des allocations pour les enfants aussi. Ce qu'on appelle aujourd'hui les AJE, allocations pour les jeunes enfants. Également, il y avait des centres d'accueil pour les voyageurs. Ils pouvaient manger, rester, dormir, et puis repartir. Et lorsque le budget était excédentaire, chose qui est quasiment... Ça relève de l'utopie dans la plupart des sociétés des pays. Lorsque le budget était excédentaire, ce qui était souvent le cas sous l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, qu'est-ce qu'on faisait de l'argent en plus? Soit il donnait cet argent aux personnes endettées, soit cet argent était distribué aux jeunes qui voulaient se marier mais qui n'avaient pas les moyens, soit on donnait aux personnes qui voulaient faire le hajj mais qui n'avaient pas le moyen. Et Omar ibn Abdel Aziz, dans son khilafat, il a atteint un tel degré de perfection dans l'organisation de la société qu'on ne trouvait plus personne pour apprendre la zakat. On cherchait des pauvres pour apprendre la zakat, mais on n'en trouvait plus, tellement le système qu'il avait mis en place, qui suivait le mode du Coran, les règles du Coran et de la Sunna, était appliqué à la lettre, que la population a compris c'est quoi avoir ressenti à la tranquillité du cœur, vivre comme Allah et son prophète l'ont demandé. Et on avait cité ça il y a quelques semaines de cela, un texte d'un économiste français, je ne me trompe pas, et là il a dit, lorsqu'il analysait le début de la crise en Amérique et autres, il disait qu'il aurait fallu suivre le système du Coran. Le système économique mis en place de le Coran, si ce système était suivi, il n'y aurait jamais eu cette crise. Et il dit, hein, c'est pas moi, c'est dans un magazine très connu, il dit que d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que dans les pays du Moyen-Orient, la crise n'a pas atteint un tel degré. Parce que dans la charia, dans l'islam, la spéculation était interdite. Tout comme l'intérêt est interdit. Alors que dans ces pays, comme l'avait cité l'exemple, on vous vend un conteneur de tomates alors que les graines n'ont pas été plantées encore. Et ça, dans l'islam, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle « bay'u ma la tamlik ». On n'a pas le droit de vendre ce qu'on n'est pas encore propriétaire. Et donc cette économie disait, si on respectait les principes apportés par le Coran et Mahomet, alayhi salatu wassalam, jamais on ne serait arrivé à une telle situation. Donc ça, c'est quelques notions qu'on a tenues à dire donc sur les apports de la prophète alayhi salatu wassalam à la civilisation. Maintenant, si on parlait de relations diplomatiques, le sulh de Hudaybiyah était en défaveur des musulmans. Mais cela a porté 10 années de paix. Le prophète sallam voulait ces 10 années de paix, même si les conditions étaient défavorables. Où sont ces personnes qui osent dire que notre religion s'est propagée à la force de l'épée? Alors que le prophète sallam recherchait, il voulait ces 10 années de paix pour qu'il puisse propager sa religion, et il l'a fait à grande échelle. Alors lorsqu'on analyse, hein, pour revenir à la société Madina, le prophète sallam arrive à Madina, on avait déjà expliqué ça, il y a 3 tribus juives, les Banu Qaynuqa, Nadir et Quraiza. Est-ce que notre prophète a dit que vous êtes nos ennemis jurés, on va couper votre tête, ou alors on vous chasse de notre pays? Jamais de la vie. Le prophète sallam a fait ce qu'on appelle un pacte, un sulh, un pacte de non-agression et de coopération avec les 3 tribus juives. Vous vivez sur notre terre, il n'y a aucun problème. Nous avons un libre-échange dans le commerce et autre chose. D'ailleurs, le prophète sallam empruntait de l'argent au Yahoud. Et lorsque le prophète sallam est décédé, il devait de l'argent à un juif et on a donné son armure en caution. Les mu'amalas, les transactions étaient permanentes en musulmans et ces 3 tribus juives, il n'y a jamais eu de problème. Tant qu'il n'y a pas eu les guerres extérieures. Et si les tribus juives venaient à être attaquées, les musulmans se devaient de les défendre. Et si les musulmans étaient attaqués, les tribus juives se devaient de s'unir, d'être solidaires avec les musulmans. Ce genre de discours, c'est comme si c'était une réforme de l'ONU, de l'OTAN. Mais non, ça remonte à 1500 années. Ça, c'est l'apport de l'islam à l'humanité. C'est la perfection du Coran et la perfection du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je reviens sur l'objectif de ce qu'on vient de dire. C'est pas juste pour vous dire que oui, il y a 1500 années, tout était mieux. Notre prophète était l'homme le plus intelligent. Et ce qu'il a apporté, c'était unique. Maintenant, on n'a plus tout ça. Non. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on considère notre dîme, qu'on soit fier d'être musulman. Nous avons une religion qui est parfaite, qui a abordé toutes les notions existantes de la vie d'un homme, comme aucune religion n'a fait, comme aucun homme n'a pu faire. Soyons fiers d'être musulmans. Enseignons à nos enfants la grandeur de l'islam. Que nos enfants soient fiers aussi d'être des petits musulmans et que nous restons dignes de ce risala, de ce message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Qu'Allah ta'ala donne tawfiq de comprendre donc ces quelques paroles et qu'Allah ta'ala renforce l'amour pour lui, l'amour pour son prophète et l'amour pour son dîn dans notre cœur et qu'Allah ta'ala fasse que par notre comportement, notre manière d'agir dans la société, nous devenions un motif de hidayat pour l'humanité. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.